Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette lorgnette hors série. Vivre avec l'endométriose, c'est notre sujet du jour. L'endométriose est une maladie inflammatoire complexe. Elle touche au moins une personne menstruée sur 10. Elle se caractérise la plupart du temps par des douleurs très intenses lors des périodes menstruelles et peut être parfois cause d'infertilité. Malgré un très grand nombre de cas, cette maladie est encore trop peu connue et diagnostiquée tardivement, avec un retard de 7 ans en moyenne. EndoFrance est la première association de lutte contre l'endométriose, créée en 2001. Elle multiplie les actions de soutien et d'information pour les personnes atteintes de la maladie. Fin novembre 2025, Justine, bénévole de la région Centre, proposait une sensibilisation à l'EHPAD La Maison Claude de France à Chaille. Nous vous proposons donc à l'écoute la rediffusion de cette conférence.
Bonsoir, je suis contente de voir autant de personnes ce soir. Donc, je me présente, je suis Justine, je suis bénévole régionale donc pour EndoFrance. Et on va commencer par vous présenter EndoFrance, puis l'endométriose. Aujourd'hui, en fait, EndoFrance est une association qui comporte 3000 adhérents, donc qui nous soutiennent. Donc, c'est essentiel pour nous, car même si nous avons deux agréments ministériels, on ne reçoit aucune subvention publique pour nos frais de fonctionnement. Donc, c'est grâce à nos donateurs qu'aujourd'hui, plus de 440 000 euros ont été versés à chaque équipe de recherche, aussi bien en recherche clinique qu'en recherche fondamentale, pour faire avancer la connaissance et les traitements de l'endométriose. Donc, aujourd'hui, on essaye de réaliser près de 700 actions en France et on traite environ 25 000 mails par an. Donc, c'est en plus de nos vies professionnelles, personnelles et de notre quotidien avec la maladie. Parce qu'en fait, il faut savoir que toutes les bénévoles d'EndoFrance sont elles aussi atteintes de la maladie. Voilà. Donc, on peut aussi compter donc, sur un conseil scientifique pluridisciplinaire donc, qui nous forme et qui permet de crédibiliser le message que nous portons aux personnes qui nous sollicitent. Et il faut savoir qu'en 2022, on a participé à l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. Et nous sommes membres aussi des filières de soins régionales dédiées à l'endométriose. On a aussi la chance d'avoir à nos côtés donc, notre marraine, Laetitia Milo, et notre parrain, Thomas Ramos. Donc, on vous présente aussi l'endométriose en quelques chiffres. Donc, on parle de 10% de personnes menstruées diagnostiquée, ça équivaut à une personne sur 10. On fait la différence en disant diagnostiquée parce que voilà, c'est des chiffres qu'on n'est pas encore totalement sûr. On parle aussi que cette maladie souffre d'une errance médicale de 7 ans en moyenne. On peut penser qu'il y a 2 à 3 personnes qui pourraient être concernées. Donc, en moyenne, il y a 7 ans d'errance médicale donc pour avoir un diagnostic. On espère que ce délai baissera grâce justement à la mise en place de la stratégie nationale pour la lutte contre l'endométriose. On sait aussi que dans 70% des cas, donc le symptôme principal, c'est la douleur. Une douleur invalidante au moment des règles et qui empêche d'agir dans le quotidien. Et que 40% des infertilités sont dues à l'endométriose. Et donc, ce dernier chiffre qui est un zéro parce qu'on a zéro traitement spécifique à l'endométriose. Quand on parle d'endométriose, je vais vous expliquer donc rapidement avec quelques schémas en quoi ça consiste. Donc ici, donc, vous avez un utérus qui a été coupé en deux dans le sens de la longueur. Vous voyez donc le vagin qui débouche sur le col de l'utérus et donc le muscle utérin appelé aussi myomètre. Et cette partie représentée ici en rose strié. L'endométriose, en fait, elle tire de son nom donc, de l'endomètre. Donc, c'est la partie muqueuse en fait, qui tapisse la cavité utérine et qui va gonfler en fait, au moment des cycles pour accueillir un embryon. Et bien sûr, donc, s'il n'y a pas fécondation, la muqueuse se détache et c'est ce qui va faire nos règles. Et donc ici, en fait, on va parler d'endométriose quand dans cette cavité utérine, des cellules semblables à l'endomètre qui vont se greffer en fait sur les organes dans le petit bassin. Donc le péritoine, donc c'est l'espèce de membrane en fait qui entoure nos organes. Et on peut en trouver aussi au niveau des trompes, des ovaires, de la vessie, du rectum, voilà, sur pas mal d'endroits. Et dans des cas des plus rares, en fait, on peut aussi retrouver ces cellules sur le diaphragme également. Donc la particularité de ces cellules, c'est qu'elles sont soit dans l'organisme, elles vont entendre en fait le message hormonal, et comme on voit en fait sur le schéma à droite, eh bien quand on a nos règles, ces cellules aussi, elles vont saigner. Donc en fait, ça va créer donc des micro-hémorragies, des kystes, qu'on peut voir en fait sur le kyste à gauche, et ça va ensuite donc déformer les organes. Donc sur la droite, vous voyez une position normale de l'ovaire et de la trompe, mais sur la gauche, en fait, vous voyez que l'ovaire est attiré par la trompe. Donc à terme, en fait, il va se coller contre l'utérus également, emprisonnant la trompe. Dans les formes sévères, on a ce qu'on appelle en fait un pelvis gelé, avec l'utérus collé aux intestins ou à la vessie en fonction de sa position antéversée ou rétroversée. En fait, il faut savoir que selon les femmes, on peut avoir un utérus antéversé ou rétroversé. Donc c'est normal, c'est-à-dire que c'est comme une personne qui va être droitière ou gauchère. Ça n'a aucun lien par contre avec l'endométriose. On parle donc d'infertilité parce que justement, on imagine très bien que l'ovocyte et le spermatozoïde vont avoir beaucoup de mal à se rencontrer. Donc ça peut être une première explication de l'impact de l'endométriose sur la fertilité. Et la deuxième, ça s'explique aussi par le climat extrêmement inflammatoire, parce que l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire, qui est constituée par les micro-hémorragies, les lésions, qui ont un effet délétère sur la fécondation. Et on imagine bien voilà, que quand nos organes sont collés comme ça, c'est très compliqué. Donc ici, on voit les différentes formes d'endométriose. Alors, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On ne parle plus de stade d'endométriose parce qu'on s'est rendu compte en fait que qu'importe l'endométriose qu'on avait, il y a autant d'endométriose que de femmes atteintes. Et donc, personne n'est égal sur cette maladie, c'est-à-dire qu'on peut avoir un tout petit point d'endométriose et avoir extrêmement mal, ou alors avoir l'endométriose, adénomiose, des kystes, et tout va bien. D'où le fait qu'on ne parle plus de stade, mais de forme. Donc ici, en fait, on a ce qu'on appelle de l'endométriose donc superficielle, c'est-à-dire qu'en fait, elle vient se mettre au niveau donc, du péritoine qui englobe nos organes. Quand on dit superficielle, ça ne veut pas dire qu'elle ne fait pas souffrir. C'est simplement qu'elle est sur le péritoine. Et c'est pour ça qu'on parle aussi d'endométriose péritonéale. Voilà, ça n'a rien à voir avec les douleurs. Ici, donc, on a de l'endométriose profonde. Ça veut dire que l'endométriose va infiltrer les organes à plus de 5 mm. Donc ici, on va avoir ce qu'on appelle un endométriome ou un kyste au niveau des ovaires. Et ici, en fait, on va avoir ce qu'on appelle l'adénomyose. Alors pour certains, l'adénomyose, c'est une autre maladie. Ici, on la considère comme une autre forme d'endométriose. Et ici, en fait, on va voir qu'il y a des infiltrations au niveau du muscle utérin. Donc, les symptômes qu'on retrouve le plus fréquemment, en fait, nous, on parle de 5D. Donc, c'est-à-dire qu'on va parler de dysménorrhée. Donc, c'est le symptôme principal, c'est-à-dire les douleurs pendant les règles. Qui vont être très fortes et invalidantes. Alors, il y a deux formes de dysménorrhée. Ce qu'on appelle la dysménorrhée primaire, c'est à nos premières règles. Ce n'est pas forcément une endométriose. Et on va avoir donc la dysménorrhée secondaire, qui là va arriver à une vingtaine, autour des 20 ans. Et là, effectivement, si on voit que les antalgiques, tout ça, ne font pas effet, il va peut-être falloir consulter pour parler endométriose. On va aussi avoir les douleurs pelviennes. On dit qu'une femme sur 10 atteinte d'endométriose ressent en fait cette douleur qui empêche d'agir dans le quotidien, parce que la douleur amène crispation, tension, qui peut résonner sur les muscles. Et surtout que dans le petit bassin, de nombreux nerfs en fait communiquent entre eux. On a aussi la dyspareunie. Donc, c'est les douleurs pendant les rapports sexuels avec pénétration. Et ça, 50% des femmes disent ressentir cette douleur. On a la dysurie, donc c'est la douleur à la miction, c'est-à-dire quand on va uriner. Et en fait, ça donne cette sensation d'avoir une infection urinaire, ce qui n'est pas le cas. Et on va aussi avoir la dyschésie, toujours du mal à dire, qui va être la douleur en fait à la défécation. Et en fait, ça va être une alternance entre diarrhée, constipation. Voilà. Donc, si la douleur en fait de l'endométriose n'est pas facilement stoppée, il arrive en fait qu'elle devienne constante et qu'on parle de douleur chronique. Et en fait, elle va être présente donc tout au long de nos cycles. Et c'est-à-dire que ce sera plus forcément que pendant nos règles. Et en fait, c'est là qu'il y a une fatigue aussi chronique qui peut intervenir. Donc, on l'a vu, à la fois symptômes et conséquences, donc l'infertilité. Symptômes car il arrive dans des cas où l'endométriose en fait se développe sans bruit et au cours du bilan de fertilité que l'endométriose en fait là qu'elle va être découverte. Dans ces formes en fait les plus sévères, l'endométriose devient un handicap invisible, soit à cause des symptômes eux-mêmes, soit en raison de chirurgies malmenées ou répétitives. Et tout cela, voilà, ça génère une fatigue physique et morale. Alors aujourd'hui, il n'y a pas encore d'explication réelle sur le pourquoi de l'endométriose. Effectivement, on entend souvent parler de génétique, on entend parler aussi que ça peut être l'environnement. Et une théorie en fait qui existe beaucoup, c'est la théorie du reflux. C'est-à-dire que quand on a nos règles, il peut arriver en fait que le sang s'évacue donc par l'utérus et par les trompes, et qui dépose du sang à certains endroits qui n'ont pas lieu d'être. Et logiquement, en fait, nos défenses immunitaires sont là pour justement aller retirer ce sang qui est revenu en arrière. Et on pense que voilà, ça peut être aussi un problème de défense immunitaire. Mais comme quoi, ça reste quand même une théorie. Aujourd'hui, on n'a pas encore de réponse exacte sur le pourquoi de l'endométriose. On a beaucoup souvent entendu parler que c'était normal d'avoir mal pendant ses règles, que c'était une maladie de femme, qu'on était un peu chouchotte. Voilà. Et tout ça, ça a amené aussi à ce qu'on mette beaucoup de temps à en parler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec EndoFrance, on essaye d'être là justement pour informer sur la maladie et accompagner justement les patientes et essayer de réduire un peu ce délai de 7 ans pour avoir un vrai diagnostic. Alors, comment on pose un diagnostic ? La première chose, c'est d'abord d'aller voir un médecin ou un gynécologue qui va être formé à la maladie et qui va vous poser en fait tout un tas de questions pour essayer de voir si oui ou non il peut y avoir endométriose. Ensuite, on va faire donc des imageries médicales. Donc, ça va être surtout dans un premier temps une échographie pelvienne et pour les plus jeunes, un IRM pelvien. C'est-à-dire que l'IRM n'est pas forcément toujours conseillé parce qu'il y a des formes d'endométriose qui ne se verront pas à l'IRM. Et quand bien même ça ne se voit pas à l'échographie et ça ne se voit pas à l'IRM, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'endométriose. Toutes les endométrioses ne sont pas détectables à l'imagerie. C'est aussi pour ça que c'est une maladie qui est compliquée. Donc la prise en charge, en fait, elle vise à préserver donc la qualité de vie pour la personne atteinte, mais aussi la fertilité pour celle qui souhaite avoir des enfants, puisque, comme on le sait, aujourd'hui, on n'a aucun traitement pour soigner l'endométriose. On n'en guérit pas. Donc selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé et du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français, ils indiquent en fait que la prise en charge en fait elle repose sur une alliance thérapeutique, donc entre le traitement hormonal, parfois la chirurgie, mais surtout le traitement hormonal et les soins de support pour apaiser surtout la douleur. Mais aussi tout ce qui va être trouble associé, donc troubles urinaires, troubles digestifs. Donc c'est ce qu'on disait, le traitement il est d'abord hormonal. Donc l'endométriose c'est une maladie hormonodépendante. Donc le traitement de première intention c'est la mise en aménorrhée. Donc c'est-à-dire qu'on arrête les règles pour faire en sorte que la maladie n'évolue pas. Donc ça s'obtient en fait en prenant donc une pilule en continu. C'est-à-dire que dans certaines pilules on va avoir des petits cachets placebo pour comment avoir ce réflexe de continuer la pilule. En fait, ces cachets placebo, on ne les prend pas. On oublie cela et on continue sans s'arrêter la pilule. Et ça arrête donc les règles. Et en fait, si on stoppe donc le message hormonal des ovaires qui commande les règles, les lésions d'endométriose, elles non plus en fait, ne vont pas saigner. Donc, il y a aussi donc, les antalgiques pour soulager la douleur. Et la difficulté, en fait, c'est de trouver le traitement hormonal donc, qui offrira la meilleure balance bénéfice que risque. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver à essayer plusieurs pilules avant de trouver la bonne qui va vraiment stopper les règles, soulager les douleurs. La première n'est pas forcément celle qui fonctionne le mieux. Ça peut arriver, mais voilà. Et il y a aussi les stérilés hormonaux. Surtout pas les stérilés en cure parce que ça accentue la douleur. Et surtout, ça n'arrête pas les règles. Et donc, on va dire en deuxième intention, quand les traitements hormonaux n'ont pas fonctionné, en parallèle des soins de support, on va donc parler de la chirurgie. Et la chirurgie, elle doit absolument être faite par des experts, parce que les gestes médicaux, en fait, sont très techniques et ça peut abîmer les organes fonctionnels, donc comme la vessie ou l'intestin, en fonction des atteintes. Et donc, c'est ce que je disais, en fait, en complément donc, du traitement hormonal, on parle de soins de support, c'est-à-dire on parle de kinésithérapie, d'ostéopathie, d'acupuncture. Il existe aussi les cures thermales ou du sport adapté. Et donc, tout ça, c'est recommandé donc, par la Haute Autorité de Santé, qui peut aider, par exemple, aussi pour les personnes qui souhaitent un enfant. Et donc qui forcément ne vont pas prendre de traitements hormonaux. Et donc le fait de faire des soins de support à côté peut aider justement à soulager la douleur. En fait, il faut que ce soit une prise en charge globale et surtout individualisée. Donc c'est ce que je disais, en fait, chaque cas unique. On ne vit pas l'endométriose de la même manière d'une femme à l'autre. Donc l'impact sur le quotidien. Donc 66% des personnes avec de l'endométriose ont un impact donc sur leur vie sexuelle, puisqu'on parlait justement qu'on peut avoir des douleurs pendant les rapports. On va aussi avoir un impact sur le plan psychologique et physique. Parce que ça reste une maladie qui est fatigante, où on est obligé d'essayer pas mal de choses avant de trouver la solution qui va nous soulager au quotidien. 61% des femmes, donc dans leur vie de couple ou relation amoureuse, ça a eu un impact aussi, tout comme dans leurs activités de loisirs. Donc voilà, les mots en fait qu'on met sur le côté, c'est les mots qui sont souvent ressortis. Donc incompréhension, dépression, difficulté, douleur, fatigue chronique, isolement. Souvent, c'est l'incompréhension qui ressort, parce que déjà la maladie de comprendre en fait l'incompréhension de ce que les personnes en fait vivent au quotidien, et ça peut être aussi une incompréhension de la part de l'entourage, parce que ça reste une maladie invisible et qui peut parfois être abstraite en fait pour les autres. Et c'est cette incompréhension en fait qui peut justement, comme on voit en bas, isoler. L'endométriose, ça a aussi un impact sur la vie professionnelle. Selon une étude d'Endovie, 65% des femmes interrogées indiquent que l'endométriose impacte négativement leur vie professionnelle. 62% des femmes déclarent que leurs capacités physiques et intellectuelles de travail sont diminuées. Et 62% disent que se lever le matin est parfois impossible. Et pourtant, 32% des femmes s'obligent à aller au travail malgré la douleur. Et donc à tout cela, ça s'ajoute aussi un niveau de stress plus élevé pour 58% des femmes. Et souvent les incertitudes qu'on peut avoir, là c'est une citation, et c'est: est-ce que mon traitement va agir? Est-ce que je vais avoir une crise aujourd'hui? Une hémorragie au travail? Est-ce que je vais devoir me faire opérer ou réopérer? Voilà, tout ça, ça reste des interrogations qui peuvent générer énormément de fatigue et de stress. Donc ici, en fait, on vous met des témoignages qu'on a pu avoir. Donc on m'a dit que j'étais une tire au flanc parce que je m'absentais beaucoup et que je n'avais pas de raison valable. J'étais trop absente, alors mes projets ont été confiés à une autre personne. On m'a clairement dit que je n'évoluerais jamais dans l'entreprise à cause de ma maladie. Et pourtant, en fait, aujourd'hui, il existe quand même des pistes très concrètes, en fait, pour concilier endométriose et vie professionnelle. Bien entendu, bon, bah, chaque parcours est différent. Certaines personnes arrivent à maintenir une activité professionnelle stable. Pour d'autres, c'est plus complexe et ça nécessite un accompagnement adapté. Donc, les pistes, en fait, pour les personnes atteintes et qui travaillent. Donc, ça va être de rencontrer et informer les services de prévention et de santé au travail, donc la médecine du travail. On peut aussi demander une RQTH. Donc, pareil, hein, ça dépend pas, la RQTH ne se demande pas en fonction de nos atteintes. C'est qu'importe les atteintes d'endométriose qu'on a, on peut demander une RQTH. Et en fait, grâce à ça, ça permet donc d'aménager son poste de travail. Par exemple, d'avoir une chaise ergonomique ou un bureau plus adapté. D'avoir aussi un temps de travail adapté ou de pouvoir télétravailler et donc d'avoir ce qu'il faut chez soi, ses médicaments, sa bouillotte, voilà, tout ce qui nous fait du bien. Et on peut aussi demander un temps partiel thérapeutique. Donc ça peut être la mise en place, suite à la mise en place d'un traitement spécifique ou après une chirurgie. Et donc là, forcément, donc, j'ai parlé de l'endométriose pour tout le monde, pour ceux aussi qui travaillent, mais on va aussi parler de l'endométriose et des jeunes, et comment on peut parler endométriose avec les jeunes. On sait aujourd'hui donc, que l'endométriose, ça ne concerne pas que les femmes qui ont eu des règles depuis plusieurs cycles, ça peut concerner aussi les jeunes. Et c'est pour ça que là, je ne l'ai pas mise, mais on a une affiche où c'est écrit « On n'est pas trop jeune pour avoir de l'endométriose ». Pour les plus jeunes, en fait, à partir de quand on doit s'inquiéter ? Déjà, toutes les douleurs ne sont pas de l'endométriose, mais c'est si, par exemple, on prend un antalgique, un paracétamol, un doliprane ou qu'on prend un antispasmodique, donc le spasmon, et que rien ne se passe, on peut se poser des questions. Et aussi, si à chaque règle, la douleur, elle revient, qu'elle est de plus en plus forte, là aussi, on peut se poser justement la question de l'endométriose. Et puis, bah, pareil, si c'est à un moment ou un autre, on est obligé de louper les cours, l'apprentissage, le travail, qu'importe. Dès lors, il faut se poser la question. L'endométriose chez les jeunes, ça peut être un sujet tabou, ça peut être quelque chose qu'on a du mal à évoquer, que ce soit avec sa famille, ses amis ou même les personnes de l'école. Et donc, en fait, il existe quand même des choses pouvant aider les jeunes qui ont de l'endométriose. Et justement, quand l'endométriose en fait, a des répercussions donc, sur la vie, sur les cours, sur même l'attention qu'on arrive à donner quand on est en cours, il faut savoir qu'on a le droit à un projet d'accueil individualisé. Donc c'est ce qu'on appelle un PAI. Et en fait, ça permet justement d'avoir des aides au quotidien. Donc on va avoir, par exemple, plus facilement le droit d'aller à l'infirmerie avec une bouillotte. L'infirmier ou l'infirmière aura notre ordonnance et donc aura le droit de nous donner nos médicaments pour nous soulager. Si, par exemple, on rate des cours, on a le droit à des temps supplémentaires pour les examens et on a des aides pour rattraper cela. Et c'est aussi une façon du fait de pouvoir avoir sa bouillotte, ses médicaments, de réduire en fait le temps d'absence à l'école. Et donc en fait, si l'endométriose a des répercussions plus sévères sur le quotidien, c'est là en fait qu'on parle elle fait partie en fait des maladies qui entraînent un handicap invisible. Donc là, ça va être plus être pour les personnes qui travaillent. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est avoir un bureau équipé d'une chaise ergonomique qui peut peut-être réduire les douleurs. Pour ceux qui sont à l'école, c'est peut-être voir pour avoir des horaires un peu plus flexibles ou au travail, pareil, avoir des horaires plus flexibles pour pouvoir rentrer chez soi quand on a besoin. Et faire du télétravail, c'est ce qu'on disait. Bon, pour l'école, c'est compliqué. Mais pour ceux qui travaillent, peut-être mettre en place du télétravail. Et donc, pour finir, on vous présente en fait quelques petites ressources. Donc déjà, là, vous avez un petit QR code si vous avez besoin. C'est pour travailler avec l'endométriose. Notre site internet, en fait, il faut savoir qu'il est relu et corrigé par des médecins. et puis aussi par notre réseau de bénévoles qui sont là et qui sont partout en France pour mener des actions de soutien et aussi pour orienter vers des professionnels compétents. Justement, en fait, vous allez trouver un guide de parcours de santé des personnes malades chroniques. Donc, il a été rédigé par un collectif d'associations de patients, dont EndoFrance, pour informer sur les aides administratives possibles tout au long du parcours de soins. Il va y avoir aussi l'étude EndoVie, dont justement on a parlé au cours de cette sensibilisation avec le pourcentage de femmes qui pouvait répondre à cette étude. On a aussi donc le livre blanc, donc c'est endométriose et emploi. Et en fait, ce support, il sert de il sert de support à cette sensibilisation. Donc, il a été rédigé par EndoFrance et diffusé par Carialis. Donc, c'est une mutuelle. Et c'est la première entreprise en fait à nous avoir contactés pour sensibiliser les salariés à l'endométriose. Il faut savoir aussi qu'il a été relu et corrigé donc par une avocate spécialisée en droit du travail et médecin du travail. Et donc, le dernier né, donc c'est Serious Game, en deux travail. C'est un jeu en fait informatif et pédagogique qui lève un peu les tabous de l'endométriose au travail. Et en fait, on se met dans la peau d'une femme qui s'appelle Catherine et qui reçoit un rappel sur son portable IRM 16h. Et il faut actuellement entre 8 et 12 mois pour avoir un rendez-vous en IRM. Et dans le même temps, en fait, elle reçoit un mail de son manager disant « Rendez-vous dans mon bureau à 16h ». Voilà. Et donc, ça va être tout un jeu par rapport à ça. Enfin, un jeu, entre guillemets. Bien sûr. Voilà, on se marre pas. Et donc, on a aussi d'autres ressources. Donc, un livre qui s'appelle Les idées reçues donc, sur l'endométriose. Il a été corrigé avec des médecins qui partent des principales idées reçues que le public et que même certains médecins en fait qui ne connaissent pas la maladie peuvent avoir, donc comme par exemple que on a souvent entendu la grossesse guérissait l'endométriose. Voilà, donc on va justement parler de ces idées reçues. Et on a aussi donc l'endométriose de Clara. Donc c'est une BD et on suit le parcours d'une adolescente qui commence à avoir des douleurs pendant ses règles, qui comprend pas tellement ce qui lui arrive, et on va suivre en fait son parcours, que ce soit avec sa famille, ses amis, l'école aussi, et surtout comment en fait elle va faire son diagnostic. Et pour terminer, donc on a aussi des petits flyers ici, voilà, pour parler justement de l'endométriose, qui va résumer un peu certaines choses qu'on s'est dites. On fait beaucoup de sensibilisation auprès des lycéens et des collégiens. On fait aussi des sensibilisations en entreprise. Donc on va avoir bien sûr des supports qui vont être dédiés pour les plus jeunes. Et souvent dans les sensibilisations en collège et lycée, on les fait participer. Et on prend des classes mixtes. Voilà, on espère, parce que c'est pas nous qui le demandons, mais on espère souvent avoir des classes mixtes pour justement aussi sensibiliser les jeunes hommes à la maladie et au fait que leur maman, leur sœur, leur tante, leur future copine ou pas peuvent être atteintes de la maladie. Et pour finir, il faut savoir que EndoFrance est là pour soutenir, informer et agir auprès des patientes, des médecins. Voilà. Et puis maintenant, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Tout du moins, j'essaierai. Oui. Alors, quand on a la ménopause, c'est pour ça qu'on dit que chaque endométriose est différente et qu'il y a autant d'endométriose que de femmes atteintes, parce qu'en fait, la ménopause, pour certaines, en fait, ça va résoudre, entre guillemets, le problème. C'est-à-dire que les cellules semblables à l'endomètre, comme on n'a plus nos règles, elles vont arrêter de saigner. Donc pour certaines, en fait, la ménopause, c'est le moment où c'est le soulagement complet, même si la ménopause amène plein de symptômes avant. Mais en tout cas, l'endométriose peut être soulagée. Et en fait, il y a pour certaines femmes où la ménopause ne règle pas le problème ni les douleurs. Et c'est souvent pour ça que à la ménopause, on va plus se diriger vers les soins de support. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Comment je vis, moi, avec... Ah oui, il n'y a pas de souci, je peux en parler. Alors moi, je suis pas une très bonne élève parce que je travaille dans le milieu ferroviaire et je suis en logistique. Donc ça m'amène à être soit souvent en déplacement, soit souvent à porter des charges lourdes que je devrais éviter. Mais comme j'aime bien mon métier, je le fais. J'ai été diagnostiquée de l'endométriose et de l'adénomyose en 2018. Ça a été très très long. Bah, comme on expliquait, voilà, j'ai mis des années à avoir un vrai diagnostic. Et depuis 2018, je suis passée par beaucoup de pilules. J'ai fait de la kinésithérapie. Ça m'a beaucoup aidée. Vraiment beaucoup aidée, surtout en période de crise. Voilà, parce que les séances étaient dédiées en fonction des douleurs. Donc ça, c'était vraiment top. J'ai eu aussi des stérilés. Ça a été une catastrophe. Voilà. Donc vraiment pas facile. Et pour être tout à fait honnête, je me suis fait opérer il y a un mois. C'est pour ça que j'ai fait, et j'en suis désolée, j'ai fait cette conférence en étant assise, parce que pour l'instant, je ne peux pas encore être complètement debout. Donc je me suis fait opérer il y a un mois par célioscopie, l'endométriose. C'est pas toujours évident, le post-opératoire. Mais aujourd'hui, je commence à avoir un peu moins de douleurs. Après, j'ai pas arrêté les traitements hormonaux, donc j'ai toujours pas mes règles. Mais il y a du mieux. Voilà. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu être chez Endo France, parce que voilà, je me suis dit que c'était pas chouette, mais il fallait bien que ça serve à quelque chose d'avoir ça, alors autant aider d'autres personnes, vu qu'on savait ce que les autres en face de nous pouvaient vivre. S'il y a des questions que vous n'osez pas me poser ce soir, ce que je peux comprendre, j'ai une adresse mail de région, si vous voulez la noter, si vous voulez venir me voir après, il n'y a pas de souci. Alors c'est centre, sans majuscule au singulier, @endofrance.org. Tout en minuscules, voilà, endofrance.org. Je peux comprendre que voilà, vous ne soyez pas tous et tout à l'aise à poser des questions. Donc n'hésitez pas, on est là pour vous aider, vous accompagner. Et surtout, ne restez pas seul. Oui. Alors, il existe effectivement la filière de soins endocentre, qui, elle, en fait, est là pour former les médecins à l'endométriose. Et donc, ils vont avoir un annuaire de spécialistes, de médecins, sages-femmes, gynécologues, kinésithérapeutes qui vont être formés à l'endométriose. Et ça, c'est grâce à la filière de soins. Nous, en tant qu'association, on n'a pas d'annuaire, mais on a des recommandations. Donc, de patientes, d'adhérentes de la filière pour essayer de guider les jeunes femmes ou personnes menstruées à aller vers les bons spécialistes. Mais voilà, c'est pour ça que la filière de soins endocentre existe, et il en existe dans toutes les régions. Aujourd'hui, justement, grâce au programme qu'il y a eu en 2022, maintenant, dans les cours de médecine, on parle de l'endométriose. Alors, je sais que ça reste un court paragraphe, on va dire, mais on en parle. Donc déjà, on pose un mot sur la maladie, et ça commence par les cours de médecine. Comment on devient bénévole? Alors, c'est une bonne question. En fait, on envoie, il y a un petit, sur notre site internet, il y a « Devenir bénévole ». On envoie notre demande et en fait, ça passe par étapes. Et il faut savoir que quand on est bénévole en France, on est formé. C'est-à-dire qu'on ne nous jette pas comme ça dans la gueule du lion, on se dit « hop, allez hop ». On a vraiment des formations pour comprendre l'endométriose, on a des formations pour être accompagné. Je suis toute seule en région centre, alors faut pas hésiter. On cherche toujours des bénévoles. Eh bien écoutez, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à venir me voir quand vous le souhaitez. Je reste encore un peu pour celles et ceux qui ont besoin de parler. Merci de nous avoir demandé de venir. Ça nous touche toujours quand on nous demande de faire des conférences et d'intervenir. Donc merci beaucoup. Merci à vous.